bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission d'Audio Sapiens, où l'on parle de science et des coulisses de la recherche. Nous sommes sur Radio Campus Amiens et, petite nouveauté, nous serons aussi diffusés sur Radio Graphite à Compiègne. Je suis Théo Mathurin, rédacteur scientifique à Ambédiscience, et je suis accompagné de mon collègue Nicolas Brasier. Bonjour.
Bonjour.
La fois dernière, nous avions parlé des batteries qui alimentent par exemple nos téléphones. Et aujourd'hui, nous allons parler de biomécanique avec Anne-Virginie Salsac. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Audio Sapiens. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire de biomécanique et bioingénierie de l'UTC.
Oui.
Et vous travaillez donc dans ce labo-là et vous êtes chef de l'équipe interaction fluide-structure.
Oui, biologique, oui, tout à fait.
Structure biologique.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Oui.
Ok. Vous travaillez, pour résumer, en biomécanique et bioingénierie, c'est le nom du laboratoire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur votre parcours et donner dans les grandes lignes vos thématiques de recherche, nous expliquer un petit peu ce qui vous intéresse?
Oui, bien sûr, Théo. Donc, je travaille en biomécanique et plus spécifiquement sur le domaine de la biomécanique des fluides. Mon fluide étant le sang. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la circulation du sang et toutes les applications, aussi bien pour comprendre des pathologies liées aux écoulements du sang, que tous les concepts d'aider les médecins à diagnostiquer ces pathologies ou de les traiter. Donc moi, je suis tombée dans la biomécanique des fluides, pas au tout début de mes études, parce que j'avais commencé par un diplôme d'ingénieur à Grenoble en mécanique des fluides. Et puis la dernière année de mon diplôme d'ingénieur, je suis partie à San Diego, dans une université, donc University of California San Diego. Et là, c'est un des hauts lieux de la biomécanique des fluides. Et donc, j'ai tout de suite, quand j'ai pu choisir les cours, découvert cette application. Je crois que ça a fait tilt à l'instant où j'ai vu ce champ d'application, et la preuve, j'y suis encore.
D'accord. Donc en fait, vous avez étudié la mécanique des fluides, donc les écoulements, donc, qui peuvent être de n'importe quel fluide.
Ça peut être les rivières, voilà. Je me souviens d'exemples qu'on nous a donnés, voilà, ça peut être les pompes, ça peut être aussi un écoulement de chocolat ou de confiture dans une entreprise, hein, les fluides peuvent être divers et variés.
Donc là, c'est une application particulière, c'est pour la biologie, donc en l'occurrence le fluide c'est le sang, et les circuits sont donc,
complexes.
Il y a des tuyaux en fait.
Ce sont des tuyaux, on peut voir ça quand même comme de la plomberie, mais une plomberie finalement très élaborée, puisqu'on a un circuit fermé, on a des particularités très fortes des écoulements sanguins, c'est finalement un réseau multi-bifurqué, complexe, où on va aller de vaisseaux au fond très gros, entre guillemets, à l'échelle du corps, on est quand même à plus de 2 cm en sortie de cœur, et on va aller jusqu'à des échelles toutes petites quand on va dans les capillaires, puisqu'on est 10 fois plus petit qu'un cheveu, où on est de l'ordre de quelques microns. Donc ça fait finalement une gamme de conditions d'écoulement très très différentes, qui fait qu'on change même la physique, qu'on soit des grandes échelles ou petites.
D'accord, donc dans l'aorte par exemple, c'est pas du tout la même physique que dans les petits capillaires.
Effectivement, c'est pas les mêmes forces qui vont prédominer et qui vont piloter les écoulements, donc d'où l'intérêt de regarder, de regarder cette physique à toutes les échelles, et puis de regarder, de comprendre les phénomènes.
D'accord. Et donc en fait, sur ces thématiques-là, vous faites à la fois de la modélisation, de la théorie, ou vous faites aussi des expériences, enfin plus l'un que l'autre.
Franchement, c'est moitié-moitié. Donc je vais aussi bien. Donc effectivement, le but va être de reproduire, donc d'où l'idée de modélisation, mais de reproduire ces écoulements pour pouvoir les étudier. Donc ça va être aussi bien expérimentalement, donc en in vitro, que numériquement. Beaucoup de données, on les a aussi des médecins, des collègues. Donc c'est des données patients, qu'on va après reproduire, on va reproduire des géométries patients spécifiques dans le laboratoire. Donc il y a ce lien avec la clinique, avec l'in vivo, sans que moi-même je fasse de tests, mais j'ai travaillé avec pas mal de collègues radiologues, entre autres du CHU d'Amiens, donc on a des partenariats très forts avec différents groupes hospitaliers, dont Amiens.
D'accord, donc en fait vous allez du plus fondamental, vraiment l'étude de la physique, du côté mécanique, jusqu'à des collaborations où vous êtes très proche des applications.
Exactement, je crois que vous avez bien résumé. Ce qui m'importe, c'est finalement de faire progresser la science au cœur des problématiques scientifiques et toutes ces interactions fils-structures, puisque les vaisseaux vont être flexibles, on va avoir beaucoup de structures déformables, on peut avoir des réactions chimiques même dans le corps si on injecte une colle qui va polymériser, tout ça pour boucher un vaisseau. Donc on a des phénomènes très couplés en physique, donc ça fait des jolis problèmes de science pure, mais mon but est toujours d'aller vers de l'appliquer. Alors, une des grosses applications, c'est le clinique, mais c'est aussi d'avoir parfois des applications qui peuvent être brevetées et d'aller au fond vers la valorisation, vers le monde industriel.
Et du coup, vous avez, c'est vraiment des disciplines multiples, c'est très pluridisciplinaire.
Et totalement interdisciplinaire, et je crois que c'est ça qui fait la beauté de ces domaines de sciences, puisqu'on est à l'interface entre l'ingénierie et la physique, le monde des sciences plus dures, comme disent certains, le monde de la physiologie et de comprendre toutes les problématiques cliniques, et puis on a tout ce lien multiculturel, où finalement, on va se parler entre des gens avec des intérêts, des connaissances diverses et variées. Je crois que c'est ce creuset qui fait qu'on arrive à avancer tous ensemble.
Très bien. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont aujourd'hui ou même hier, quelques projets sur lesquels vous avez travaillé, que vous pouvez peut-être nous décrire avec un petit peu plus de détails?
Je vais peut-être commencer déjà par un projet, on peut balayer quelques-uns. Je vais commencer par un projet qui a été récemment retenu par l'Europe, qui a eu une bourse européenne, donc ERC Grant. Donc c'est un projet qui porte sur l'encapsulation. L'idée, c'est de protéger des substances actives, comme des médicaments, mais ça peut être des antioxydants, ça peut être beaucoup de... Voilà, l'idée de l'encapsulation est finalement variée au niveau de ses objectifs. Et on va... Cette substance active, le but, c'est de la protéger et de l'amener à l'endroit cible du corps sans qu'elle ait pu être dégradée en chemin. Donc il y a toute une problématique sur comment concevoir ces vecteurs, les petites membranes, les petites capsules qui vont protéger ce milieu interne et pouvoir perfectionner et optimiser leurs propriétés mécaniques, faire en sorte qu'elles ne se rompent pas ou qu'il n'y ait pas de rupture pendant le transfert, les amener au bon endroit et permettre la rupture à ce moment-là, la libération du produit.
Donc en fait, le but, c'est le transport en préservant ce qui est à l'intérieur de ces petites capsules. Mais on veut quand même qu'elle se délite au bout d'un moment pour libérer.
Il y a deux manières. Soit on veut qu'elle se délite, exactement, soit en passant par la rupture ou par une dégradation progressive au cours du temps, peut marcher aussi. Ou alors faire en sorte que juste on ait un transfert par diffusion au travers ou un transfert de masse au travers de la membrane. Et donc on aurait des temps plus longs à ce moment-là pour le relargage.
Donc finalement, c'est un petit peu la même fonction qu'a dans le corps naturellement le globule rouge qui porte l'oxygène et qui la porte.
C'est effectivement les capsules. On est tous faits de microcapsules puisque nos globules rouges sont des microcapsules naturelles.
D'accord.
Exactement. C'est exactement ça. Et au fond, il y a un côté, il y a un biomimétisme dans l'idée. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous.
Et du coup, quand vous parlez de ces capsules, on parle de quelle taille typiquement? C'est micro.
On est aux échelles micro, effectivement. Donc pour l'instant, ce qui est beaucoup utilisé, c'est des objets aux tailles nanoscopiques, oui. Vers les nanomètres, quelques dizaines ou centaines de nanomètres. Et la plupart des vecteurs sont de ces tailles-là à l'heure actuelle, parce que ça peut passer les membranes du corps. Et donc l'idée, c'est d'essayer de voir le potentiel d'objets un peu plus gros qui permettraient d'encapsuler du coup des quantités beaucoup plus importante en volume de substances actives. Mais pour ça, il faut vraiment les perfectionner. Il faut pouvoir remonter aux propriétés mécaniques et après optimiser. Une fois qu'on a la capacité de les mesurer, il faut trouver quelles propriétés donner et pour s'assurer soit qu'il y ait non-rupture, si on veut que l'objet reste préservé, soit qu'il y ait rupture ou relargage avec le bon profil au cours du temps et au bon endroit.
Ok, donc c'est tout un programme.
C'est pour c'est ça tout que un programme.
Il y a ce projet de recherche.
Donc voilà, qui est un projet sur 5 ans. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance inouïe que l'Europe nous offre, c'est de faire des projets longs par ces projets ERC, puisqu'il y a finalement très peu de financement qui donne cette visibilité sur un temps un peu plus long.
Les ANR, c'est 3 ans.
Les ANR, c'est typiquement 3 ans. D'accord. Il y en a de, ça peut être jusqu'à 42 mois, donc on peut pousser un petit peu aux 48 mois, on peut pousser à 4 ans certains projets, mais 5 ans, c'est assez rare.
Et donc ce projet est aussi, un des partenaires, c'est aussi la région Hauts-de-France ou...
Ce qui a permis ce projet, finalement, c'est il y a eu toute une montée en gamme, finalement, et beaucoup de projets... Qui ont permis de lancer, nous ont permis au fil des dernières années de tester les idées et d'aller vers ces innovations. Et donc il y a eu un très gros soutien de la région Hauts-de-France, dont encore un projet qui est encore actif, qui porte sur l'encapsulation d'antioxydants. Donc qui est mené en partenariat avec des collègues de l'UTC, aussi bien du GEC, l'équipe de Claire aussi, que le laboratoire du TIMR, et aussi avec l'équipe de Unilassal Beauvais.
D'accord.
Donc voilà, donc ça c'est un projet existant, mais au fil du temps, il y a aussi eu un très fort soutien d'autres financements, comme le LabEx à l'UTC, le LabEx MS2T, et c'est tout ça qui a finalement permis de tester, d'aller un peu aux frontières de la science, et de tester de nouvelles idées, D'accord. et de créer les partenariats.
On a vu la dernière fois, donc, avec l'invité précédent, Alejandro Franco, qui lui aussi a obtenu du coup une ERC.
Oui, ce qui est extraordinaire, dans le même panel en plus.
Oui, effectivement, on en a discuté. Et du coup, il nous a bien expliqué comment, en fait, il fallait déjà présenter des billes pour, quand on se présentait à l'ERC, déjà des preuves de concept, etc., qui pouvaient... améliorer les chances de succès, parce que c'est quand même pas facile de décrocher une ERC. Enfin, on le dit, hein, dans le milieu de la recherche, que c'est quand même c'est une des choses les plus difficiles à avoir, quoi.
Oui, et je crois que justement c'est de créer ce champ, enfin je crois que les choses, un projet qui va être et pour qu'un projet soit, il faut qu'il soit innovant, certes, il faut aussi ce tissu de collaborateurs à l'international qui permettent de concrétiser des idées très bon, soit révolutionnaire, enfin, ce qu'ils appellent en anglais breakthrough, mais au moins qui amène une part innovante dans les concepts.
Alors du coup, vous avez, donc là on a parlé de ce projet d'encapsulation, tout à l'heure vous avez mentionné le fait que vous aviez aussi des collaborations avec les hôpitaux, donc par exemple le CHU d'Amiens.
Oui, tout à fait, il y a eu pas mal de projets aussi, toujours financés par la région d'ailleurs, qui fait qu'on a des partenariats depuis plus d'une dizaine d'années avec le CHU d'Amiens, qui a permis de tisser des liens forts au fil des années. Et donc là, dans les projets très récents, on a beaucoup travaillé avec l'équipe du professeur De Vauchel, le docteur Stéphanie Dapke et toute l'équipe, pour mieux comprendre les écoulements dans la face, pour optimiser les greffes du visage ou toutes les interventions au niveau de la face.
D'accord, donc quand on effectue une greffe, il y a nécessité de, quelque part, que des choses se reconnectent,
oui.
D'une manière ou d'une autre.
Oui, c'est ça.
Quand on prélève la peau et peut-être du tissu aussi...
Ce qu'ils font en général, donc c'est assez fascinant, c'est qu'ils vont prélever des tissus à un autre endroit du corps de manière à reconstruire, par exemple s'il y a une tumeur qu'ils ont prélevée, il y a un manque du coup de tissus, donc pour pouvoir reconstruire la face, ils vont prélever des tissus ailleurs, mais il va falloir les reconnecter aux vaisseaux locaux. Donc il y a une vraie problématique, c'est que si on sait bien que le devenir à long terme du lambeau, de la partie qui est amenée, va dépendre de la manière dont elle est irriguée. Et il va falloir donc optimiser, penser à cet aspect qui est écoulement sanguin. Or, à l'heure actuelle, la plupart des équipes vont réfléchir et penser, planifier ces chirurgies en se basant sur des concepts de forme. Donc ils vont faire des analyses avant l'opération sur la morphologie des tissus, mais finalement ils prennent assez peu en compte des caractères biomécaniques, et entre autres liés aux écoulements. Donc notre but, c'est d'amener, on a depuis quelques années travaillé comment amener des techniques d'imagerie pour remonter aux écoulements sanguins, les mesurer dans ces conditions où on a affaire à des vaisseaux tout petits, par rapport à ce que savaient faire l'IRM de flux il y a quelques années, parce que là on est dans des vaisseaux de 2-3 mm souvent, pour sûr inférieur au centimètre et de loin, et donc on a et le fait d'avoir ces informations permet de savoir quels sont les vaisseaux les plus aptes à être utilisés pour connecter ou être connectés au lambeau.
D'accord, donc là c'est un exemple où des connaissances peut-être plus fondamentales peuvent vraiment être utiles pour des applications. Là, pour le coup, c'est clinique. C'est...
Oui, exactement. Et, je crois, et notre but, là, on travaille, il y a Jérémy Bettoni qui est en thèse, donc qui est chirurgien et en thèse sur ces problématiques. Il y a aussi Agnès Pasquet qui travaille là-dessus, ou, qui est en train de faire son master 2 et qui va continuer sûrement en thèse derrière. Et finalement, ce qu'on cherche maintenant à comprendre, c'est même comment prédire ou amener des outils pour pouvoir comprendre et analyser le devenir des écoulements, comment est-ce qu'ils étaient avant la chirurgie, qu'est-ce qu'ils deviennent après. Si on arrivait à mieux comprendre la redistribution des flux et comment le lambeau va vraiment être irrigué après avoir été reconnecté, là on ferait un bond en avant qui serait extraordinaire. Mais il y a encore du travail.
Il y a du travail, c'est pour ça qu'on fait
la recherche.
C'est
ça le challenge.
Ouais. Mais plus précisément, concrètement, quand on regarde, quand il y a la greffe, on reconnecte vraiment...
Vraiment, il prélève, il y a au moins une veine et une artère qui est prélevée dans le tissu, et donc le but, ça va être de reconnecter une artère proche de la face sur l'artère du tissu prélevé, et on fait aussi un retour veineux.
D'accord.
Donc il y a vraiment une greffe des vaisseaux, ce qui fait des microchirurgies. Donc c'est vrai qu'ils ont un doigté extraordinaire.
Ah oui, c'est fait à la main.
C'est fait à la main, c'est fait sous microscope. Pour pouvoir... je crois qu'on peut être très admiratif de leurs compétences.
Ouais. Ouais. Très bien, dans une seconde partie, on va peut-être passer à des activités en dehors de la recherche dans lesquelles vous êtes impliqué, juste après un petit interlude musical.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Nous sommes de retour dans Audio Sapiens sur Radio Campus Amiens et Radio Graphite à Compiègne, où nous parlons avec Anne-Virginie Salsac de ses activités de recherche. Donc vous êtes chercheuse CNRS au laboratoire BMBI à l'UTC. Et ça, on est plusieurs à le savoir à Embellis Sciences et dans le milieu de la culture scientifique technique. Vous êtes aussi impliqué dans des activités de médiation scientifique, donc au-delà des cercles de la recherche, communiquer autour de vos travaux de recherche. Donc c'est une implication qui remonte à plusieurs années quand même. Vous avez été dans un premier temps quand même impliqué dans la fête de la science. Mm-hmm. Par exemple, en 2017, vous avez participé donc à une vidéo brute où vous expliquiez ce que c'était d'être une chercheuse, sur quoi vous travaillez, et également quelques détails sur votre implication dans la fête de la science. Et vous avez été cette année, enfin en 2018, pardon, ambassadrice Fête de la Science en région Hauts-de-France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous motive, pourquoi c'est important pour vous de communiquer sur les travaux de recherche dans le cadre de la Fête de la Science ?
Mais c'est vrai que ce soit le cadre de la Fête de la Science ou même au quotidien, je pense qu'il est vraiment important de finalement partager notre passion pour la science et de faire connaître aussi bien nos métiers que tous les travaux sur lesquels on travaille. Et ça, à tout le monde, au grand public en général, mais des plus jeunes aux personnes adultes. Je pense que c'est important, voilà, donc aussi bien d'aller dans les classes que de faire venir les gens à nous pour qu'ils voient aussi dans le laboratoire ce qu'on peut faire.
C'est au-delà de la Fête de la Science, c'est vraiment... pour vous, une évidence qu'il y a un intérêt vraiment à...
Je pense que c'est une évidence et c'est quelque chose où finalement on a quelque chose à donner. Il y a déjà une partie qui est liée à notre métier par les cours qu'on va donner. Mais là, ça va être des jeunes entre 18 et 25 ans ou un peu plus souvent. Donc il y a déjà cette partie où, au fond, ça fait déjà, ça va un peu dans le même sens. Mais après, je pense que c'est important de répondre à toutes les sollicitations. Voilà, dès que quelqu'un me demande de venir dans une classe, de montrer les choses sur lesquelles je peux travailler.
De venir à la radio,
par exemple. Exactement. Et c'est toujours un plaisir renouvelé parce que je crois que ça permet à différents, finalement, d'échanger. On sort tous gagnants de ces moments de rencontre.
Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi a consisté votre implication dans la Fête de la Science, notamment en tant qu'ambassadrice ?
C'est vrai que ça a été la grande surprise de 2018 où on m'avait contactée il y a à peu près un an pour me proposer cette aventure pour la Fête de la Science 2018, de faire partie des trois ambassadeurs de la région. Donc du coup, je représentais entre guillemets l'Oise. Et donc, ça a permis finalement de mettre en avant le programme et les différentes animations et événements qui ont lieu dans la région et de faire valoir finalement la richesse des activités qu'on peut avoir dans le département.
Il faut dire que dans l'Oise, il y a quand même la Fête de la Science à l'UTC, c'est quelque chose d'assez conséquent. Moi, j'ai participé à plusieurs reprises.
C'est vrai que c'est vraiment impressionnant et je ne suis pas sûre qu'on le mette suffisamment en avant. Et je pense qu'il faut vraiment utiliser toutes les opportunités pour dire aux gens, mais venez, parce que c'est un événement, c'est quand même le plus gros événement finalement de la région. Suivant les années, on monte souvent à 8000, 8000 personnes qui viennent, dont les trois quarts sont souvent des collégiens et des scolaires en général, aussi bien des classes primaires que jusqu'au lycée. Donc c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, et quand on y va, il y a une effervescence, il y a envie, je crois qu'on est pris par ce virus et cette envie de communiquer, d'échanger.
C'est vraiment l'opportunité à l'UTC aussi de voir des chercheurs passionnés, qu'ils soient jeunes ou confirmés.
mais je crois que...
On en trouve aussi ailleurs, mais c'est ça qui est vraiment très intéressant. Moi, je voulais savoir, en fait, Anne-Virginie, est-ce que vous arrivez à partager votre passion pour, en quelque sorte, la médiation scientifique avec de jeunes chercheurs qui travaillent dans votre laboratoire, qu'ils soient en thèse ou en master, est-ce qu'ils comprennent qu'il est important aussi de s'adresser, de partager sa recherche ou les sciences avec le grand public, parce que c'est pas toujours forcément
non,
bien
non,
vu.
Non, je pense que c'est... ça, j'en sais rien. Je crois que moi, j'ai toujours transmis l'idée qu'au contraire, c'était une très grande richesse. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était quelque chose qui était très valorisé. Donc, je ne pense pas en France qu'on transmette le message de quelque chose de négatif, bien au contraire. Parce que c'est tous ces petits à côté dans un CV qui font finalement la différence à la fin. Donc moi-même, j'ai toujours eu cette impression et je pense que c'est plutôt ça qui est véhiculé. Et donc, c'est vrai que dans l'équipe, j'arrive vraiment à faire qu'il y ait une envie de communiquer, une envie de participer à tous ces événements, que ce soit les nocturnes de la recherche, parce qu'il y a déjà eu ce genre de choses qui sont organisées à l'UTC. Les fêtes de la science, on organise régulièrement des ateliers, comme cette année, c'était donc ma collègue qui l'avait chapeauté. L'atelier qu'on a organisé, c'est la vraie fausse histoire du sang, ce qui répondait complètement au thème national d'ailleurs, et régional. Le thème régional, c'était l'erreur, et le thème national était sur les fausses idées et finalement les a priori en science. Donc c'était assez extraordinaire qu'on tombe parfaitement.
Juste, effectivement, quand je suis allé, c'était du coup j'ai vu Ilias Bihi, qui est d'ailleurs un ami à moi également, qui m'a présenté donc justement la vraie fausse histoire du sang. Et effectivement, je me suis dit, ça tombe vraiment pile, quoi.
Bah oui, et finalement, on voit qu'il y a une vraie problématique actuellement. C'est de combattre les fausses idées ou toutes ces idées un peu à l'emporte-pièce qui vont parfois à l'encontre des données scientifiques. Et puis finalement de faire réfléchir et de pousser à l'esprit critique. Et donc je crois que...
Ça, c'est important. C'est vrai que là, en science, bon, dans votre domaine également, mais bon, dans tous les domaines de la science, il y a toujours des idées qui sont formulées, qui sont parfois... en contradiction ou du moins pas clairement fondée dans les données scientifiques.
Et puis aussi l'idée que la science est un parcours et qu'à quoi moment je crois qu'il ne faut jamais croire qu'on a la science absolue ou la certitude. Et donc il faut toujours garder en tête, et nous, tous les gens qui font un peu de simulation numérique, comme je suis à moitié numéricienne, comme vous le savez, l'autre moitié je suis expérimentatrice, mais donc il faut toujours avoir ce recul aussi par rapport à nos propres travaux, parce qu'il peut toujours y avoir un petit bug, une petite erreur qui fait que...
Des artefacts.
Ou une petite... même un petit chiffre qui a été trompé, qui est faux dans une équation, qui change les résultats. Donc je crois qu'il faut toujours avoir ce recul par rapport à ce qu'on fait. L'erreur peut se glisser à tout moment, et voilà. Donc c'est aussi vrai dans la démarche scientifique, en fait.
Ouais. C'est pas toujours facile, hein, quand on est humain, quand on pense avoir trouvé quelque chose, on n'est pas tout à fait sûr, mais quand même on a envie d'y croire. Ensuite on le présente à tout le monde, on se heurte après aussi aux critiques, aux avis de la communauté. C'est ça aussi qui fait avancer.
Tout à fait, c'est l'échange avec les collègues qui permet d'avancer, d'où l'idée aussi de... Tous les travaux sont expertisés par les pairs, donc on va toujours avoir le regard critique, mais constructif, des collègues. Et le but, c'est déjà de soi-même, finalement, ou par l'équipe et par la collaboration au sein de l'équipe, d'essayer de pousser, de pousser les idées au plus loin et de s'assurer, finalement, de toutes les validations.
Mais en fait, en dehors du contenu, en fait, des connaissances scientifiques qu'il est important de transmettre, il y a aussi justement ce processus qu'il est important de faire connaître. Comment la science se fait au jour le jour, qu'est-ce que c'est qu'une publication scientifique, quel est le processus pour la publication, tout ce qui est colloque, les discussions. C'est vraiment ce processus de la science en train de se faire qui est aussi intéressant à expliquer aux personnes qui ne sont pas du milieu, qui peuvent
vrai.
Se dire
c'est vrai
en fait
que...
d'où ça vient. Quoi.
Et c'est là, et d'expliquer que c'est un processus très ouvert, qui est vraiment en interaction avec les collègues à l'international. Donc il n'y a pas du tout, c'est quelque chose de très poreux, il n'y a pas de chapelle.
Il y a des écoles de pensée parfois.
Il peut y avoir des écoles de pensée, c'est vrai, mais comme toute chose...
On discute.
Voilà.
On discute toujours. J'ai vu une vidéo de vous sur internet où vous étiez en binôme avec une auteure.
Tout à fait. Donc ça, c'était une autre aventure qui était finalement liée au concept de Art et Science, où j'ai participé au projet binôme, à un des projets binômes. Et là, le concept, c'est une rencontre entre un scientifique et un auteur. Alors dans mon cas, c'était une auteure. C'était au féminin. Et donc, ça a été effectivement une très jolie aventure, une belle rencontre avec Catherine Zambon, qui avait pour challenge d'écrire... l'idée, c'était qu'on se parlait, on se rencontrait, on ne se connaissait pas. On avait 50 minutes pour parler de mon métier, et à l'issue de ça, interdiction de se parler, et elle devait écrire une pièce de 30 minutes pour trois acteurs en un mois et demi. Voilà.
En fait, c'est assez intéressant dans la mesure où vraiment vous ne vous connaissiez pas du tout et on ne vous avait même pas présenté avant de vous rencontrer.
Non.
Donc c'est assez intéressant parce qu'on demande Donc à l'auteur, qui vous pensez rencontrer aujourd'hui? Elle a dit, bah, j'imagine un homme, 35 ans, élégant, mais pas trop. C'était assez intéressant. Et ensuite, on vous voit vous rencontrer, et donc vous discutez, et vous expliquez, vous essayez d'expliquer un petit peu ce que vous faites, et également de voir comment vous pouvez connecter votre démarche à la façon de fonctionner, donc plutôt dans le processus d'écriture. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a des atomes crochus.
Les atomes crochus sont là et c'est là qu'on voit le parallèle complet qu'il peut y avoir entre le monde du théâtre et de la création artistique en général et le monde des sciences. Ce que l'esprit français aime bien mettre en boîte et cloisonner et séparer ces deux mondes. Or, je pense que il faut aussi lutter contre ces stéréotypes-là. Et cette rencontre en était la preuve et je crois que la pièce qui en est sortie le prouve intégralement. Puisque finalement, Catherine Zambon, qui pensait ne pas être totalement hermétique à tout ce qui était scientifique, s'est révélé être une formidable un vecteur extraordinaire de science, puisque par sa pièce elle explique, elle transcende finalement ses concepts et elle les met en lumière et les illustre. Et je pense que finalement, rien qu'en voyant la pièce, on arrive à comprendre des choses. C'est là qu'on voit que l'art peut servir à illustrer ou à comprendre les phénomènes, ce qui est intéressant.
Effectivement, c'est intéressant. C'est des nouvelles formes de médiation, finalement, qui peuvent aider.
Qui ont toujours existé.
Et qui ont toujours existé.
Et peut-être qu'il faut justement avoir cette ouverture d'esprit, que la compréhension. Il n'y a pas qu'une seule manière d'arriver à la science ou à la compréhension.
Oui, d'ailleurs, Embellissance avait participé à la création d'une autre vidéo binôme en 2012 avec une chercheuse de l'UPJB, du labo Biopi, Françoise Gillet, et qui ont fait un concours. Si elle nous écoute.
Le projet Binôme, donc, qui est un projet de la compagnie Le Sens des Mots.
Le Sens des Mots, tout à fait. Ça avait été l'idée originale, vient de Thibaut Rossigneux, qui dirige la compagnie.
Eh bien, merci. Merci d'être venu avec nous. On va conclure. Nous sommes contents de vous avoir accueilli aujourd'hui. Et je passe le micro à Nicolas, qui va nous faire un petit tour d'horizon de l'actualité de culture scientifique dans la région.
J'ai d'ailleurs essayé de faire aussi bien qu'Anne Virginie. Lors des différents moments où elle osait tout un parcours en Haute-France à l'occasion de la fête de la science. Je vais commencer par parler des projets qui sont accessibles, on va dire, au grand public. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur la plateforme régionale Éco-Sciences Haute-France. Je vous emmène sur l'île demain, le 16 janvier. Vous pourrez assister au vernissage d'une exposition sur le numérique, donc qui se tiendra à l'espace culture du campus
Université de Lille à Villeneuve d'Ascq.
Université de Lille à Villeneuve d'Ascq. C'est une exposition sur le numérique, donc qui s'appelle Le numérique vers un patrimoine plus identifié et mieux partagé. Et cette exposition, vous pourrez la retrouver jusqu'au 14 février. Repartons du côté de Dunkerque. Donc là, il y a un événement très important qui se déroule courant janvier et février, puisqu'il y a les assises européennes de la transition énergétique. Donc ce sont des temps de conférences, de visites, donc avec en deux temps un temps off, comme au Festival d'Avignon, donc qui se déroule du 7 janvier au 15 février, et le IN se déroule par contre du 22 au 24 janvier. Donc c'est vraiment un moyen, je crois, pour le citoyen de pouvoir s'exprimer à différentes occasions, voilà, sur toutes les thématiques liées à la transition énergétique. Donc tout le programme est à retrouver sur Éco-Sciences ou sur le site spécifique lié donc à cet événement, donc sur les assises européennes de la transition énergétique. Là, je vais venir maintenant à des projets, des événements qui s'adressent plus à des professionnels ou vraiment amateurs de sciences. On part sur Amiens pour les deux premiers projets, avec une conférence, une journée thématique à Canopée Amiens, donc qui est destinée aux professionnels de l'enseignement, avec une thématique qui s'appelle « Nourrir l'humanité, un défi global » qui se déroulera les 31 janvier et 1er février. Et ensuite, un événement qui se déroulera le samedi 2 février à La Machinerie, donc le Fab Lab aminois, avec une journée de la robotique donc, qui est dédiée aux amateurs de robots. Et c'est en fait l'occasion pour tous les amateurs de robots de venir concevoir, fabriquer, échanger et être accompagnés sur leur propre projet. Donc il faut déjà avoir une fibre un peu de bricoleur pour pouvoir assister à cette journée et avoir un projet en tête. Sur Compiègne, donc là on change un peu de thématique, l'ESCOM et en particulier donc un laboratoire, le laboratoire TIMR dont on parlait tout à l'heure qui est commun à l'ESCOM et à l'UTC, organise une journée chimie durable, chimie verte, quel avenir, donc le 21 janvier. Voilà, avec tout un tas de conférences dont on retrouve également le contenu sur Internet. Je vous donne quelques exemples de thématiques, de conférences. Il peut y avoir une chimie écologique est-elle possible ? Donc voilà, présenté par différents spécialistes de la question. Et pour finir, bien entendu, puisque en fait donc se déroule actuellement la session de formation Comtesse à recherche sur Amiens, donc qui est destinée aux doctorants et jeunes chercheurs. Et donc la prochaine session sur la même thématique Comtesse à recherche se déroulera à l'UTC du 3 au 5 février. Et vous avez encore jusqu'au 16-17 janvier pour vous manifester en envoyant à brasier@ombellisciences.fr donc votre CV et lettre de motivation si vous êtes jeune chercheur et que vous êtes intéressé par cette thématique, dont vous retrouvez également tout le contenu sur Écosciences Hauts-de-France ou sur le site d'Ombellisciences. Je vous remercie et au mois prochain pour l'actualité de la culture scientifique en Hauts-de-France.
Très bien, merci Nicolas. On va donc conclure et vous retrouver le mois prochain pour un nouvel épisode d'Audio Sapiens.
Merci beaucoup.